Merci d'être fidèle à RFI. Il est 3h à Paris, 1h temps universel.
Mathis Limano.
En Roumanie, George Simion demande l'annulation de la présidentielle. Le candidat nationaliste perdant du second tour pointe des ingérences étrangères. Selon lui, la Moldavie et la France en seraient à l'origine. Les Européens mettent la pression à Israël. Des accords commerciaux avec l'État hébreu remis en cause. Réaction à la vaste offensive lancée pour prendre le contrôle de la bande de Gaza. Dans ce journal, on s'intéresse à l'étape d'après, déjà évoquée par Emmanuel Macron, la reconnaissance d'un État palestinien. À suivre, la Syrie sur le chemin de la reconstruction. L'Union européenne lève les sanctions contre Damas. Elles étaient en vigueur depuis 15 années. En pleine tension entre Pretoria et Washington, le dirigeant sud-africain est attendu à la Maison Blanche ce mercredi. Et puis en fin d'édition, direction l'Égypte. On vous parle du plus grand casse de l'histoire du pays. En Roumanie, le perdant de la présidentielle ne s'avoue donc pas vaincu. George Simion demande l'annulation du scrutin pour ingérence étrangère. Selon le candidat nationaliste, la France et la Moldavie ont influencé le scrutin. Yelena Tomic.
George Simion a officiellement demandé à la Cour constitutionnelle d'annuler l'élection. Pour les mêmes raisons, souligne-t-il dans son message posté sur X, que celle invoquée lors de l'annulation du scrutin de novembre, à savoir des ingérences extérieures. La Cour constitutionnelle avait annulé le premier tour de la présidentielle qui avait été marqué par la victoire de Calin Georgescu, candidat quasi inconnu d'extrême droite. Les autorités avaient alors conclu à des irrégularités sur fond de soupçons d'ingérence russe. Simion affirme disposer de preuves irréfutable d'une tentative orchestrée visant à influer sur les résultats des élections, autrement dit de favoriser son adversaire pro-européen Nikos Jordan. Après sa virulente attaque la semaine dernière contre le président français, Simion accuse aujourd'hui la France et la Moldavie d'ingérence. Il a appelé à témoigner devant la justice Pavel Durov, le fondateur de la messagerie Telegram. Durov avait mis en cause dimanche le chef des services secrets français qui lui aurait demandé avant l'élection en Roumanie de bannir les voix conservatrices. Des allégations réfutées avec vigueur par la DGSE.
Les explications de Yelena Tomic. En Pologne, le candidat d'extrême droite arrivé troisième à la présidentielle veut se poser en faiseur de roi. Avec près de 15% des voix, Sławomir Mentzen a fixé aux deux finalistes les conditions de son soutien, dont le refus de l'euro comme monnaie nationale et de l'envoi de soldats polonais en Ukraine. Il les a aussi invités à se faire interviewer sur sa chaîne YouTube. Les deux candidats ont répondu favorablement. Vous êtes bien sûr RFI, les 4 heures passées de 3 minutes dans la bande de Gaza, au moment où Israël lance une grande offensive pour prendre le contrôle de l'enclave. Les premières sanctions pleuvent de la part des Européens. Ils se disent aussi déterminés, à l'image de la France, à reconnaître un État palestinien. Emmanuel Macron pourrait le faire dans les prochains mois. Pour l'eurodéputé socialiste Chloé Ridel, cette décision irait bien au-delà du symbole.
C'est important parce que ça aurait un effet d'entraînement sur d'autres pays de l'Union européenne qui, si la France reconnaît l'État de Palestine, pourraient le faire. Et cette reconnaissance, elle est redoutée par le gouvernement d'extrême droite en Israël qui, lui, en fait, rêve de faire le grand Israël du fleuve à la mer. C'est-à-dire que c'est un projet qui est celui du gouvernement de Netanyahou, messianique, où il n'y aurait plus de place pour un État palestinien et pour une solution à deux États. C'est précisément la raison pour laquelle ils procèdent progressivement à l'annexion de la Cisjordanie et que désormais ils annoncent vouloir occuper durablement Gaza et y chasser les Palestiniens. Donc ce que fait le gouvernement israélien, c'est mettre un terme, rendre impossible la solution de paix à deux États. Or on sait que c'est la seule solution possible pour la sécurité et la liberté à la fois d'Israël et des Palestiniens.
L'eurodéputée Chloé Ridel avec Clotilde Dumais. Ce mardi, 44 Palestiniens ont été tués dans l'enclave étouffée par plus de 2 mois de blocus. 90 camions ont pu faire rentrer de l'aide humanitaire. Ça reste largement insuffisant pour les besoins de 2 millions de Gazaouis, dénonce Action contre la faim. Ceux qui veulent investir en Syrie sont les bienvenus. Le chef de la diplomatie syrienne salue la levée des sanctions économiques de l'Union européenne. Elles étaient en vigueur depuis 15 ans et le début de la révolte populaire contre Bachar el-Assad. Cette levée des sanctions européennes fait suite à celle des États-Unis et elle pourrait à terme offrir un vrai bol d'air frais à l'économie syrienne, notamment pour reconstruire le pays. Samir Haïta est le président du Cercle des économistes arabes.
C'est un encouragement, notamment pour les Syriens à l'étranger. Il y en a beaucoup qui ont montré un intérêt pour venir investir, refaire marcher la machine économique en Syrie qui est bloquée. Pendant les années de sanctions, il a été extrêmement réduite et ça va encourager la reprise du cycle économique et peut-être quelques investissements. Il y a la Banque mondiale qui est rentrée, qui rajoute 150 millions de dollars comme première mise en aide. Et puis d'autres pays ont émis l'opinion qu'ils vont donner de l'aide pour la reconstruction de la Syrie. L'essentiel, c'est que la machine économique redémarre et avec un peu d'aide, il faudra du temps pour reconstruire, mais la reconstruction se fera.
Samir Aïta avec Nicolas Feldman. La Syrie qui serait au bord d'une guerre civile à grande échelle, c'est ce que croit savoir Marco Rubio. Nous estimons que l'autorité de transition est au bord d'un effondrement potentiel. L'avertissement du secrétaire d'État américain qui s'appuie sur les récentes attaques sanglantes contre les minorités druzes et alaouites de Syrie. Marco Rubio qui dit s'attendre à ce que la Russie présente ses termes dans les prochains jours en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. Pression est mise sur la Russie alors que Volodymyr Zelensky accuse Moscou de gagner du temps, et ce au lendemain de l'appel infructueux entre Vladimir Poutine et Donald Trump, le dirigeant américain qui s'apprête à rencontrer ce mercredi à Washington son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Rencontre dans un climat tendu entre les deux pays. La semaine dernière, l'administration américaine a accueilli une cinquantaine d'Afrikaners sous le statut de réfugiés, sous prétexte qu'ils seraient maltraités dans leur pays d'origine. Claire Bargelès.
Cyril Ramaphosa devra déployer tous ses talents de négociateur car nombre de dossiers sont sur la table, à commencer par la volonté d'Elon Musk de pénétrer le marché de son pays natal avec son entreprise Starlink sans se plier aux règles de discrimination positive. La délégation sud-africaine espère aussi parvenir à un accord commercial avec les États-Unis pour établir des droits de douane moins prohibitifs que ceux annoncés dans un premier temps par le maître de la Maison-Blanche. Le chef de l'État sud-africain devra également faire preuve de beaucoup de pédagogie pour rétablir les faits et contrecarrer le discours de Donald Trump qui dénonce un génocide contre la minorité blanche d'Afrique du Sud et une confiscation des terres et qui n'a toujours pas digéré la procédure contre Israël menée par Pretoria devant la Cour internationale de justice. Dans les médias sud-africains, on hésite entre d'une part se réjouir de cette mise au point nécessaire et la possibilité de peut-être réussir à convaincre Washington de participer au G20 en novembre à Johannesburg, mais d'autre part craindre que Cyril Ramaphosa fasse les frais de la politique d'humiliation de Donald Trump à l'image du président ukrainien. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
À Johannesburg, il est 3h08, une heure de plus au Caire. Le plus grand casse de l'histoire égyptienne vient d'être dénoncé par la présidente d'une université privée du Caire. L'équivalent de plus de 5 millions d'euros en liquide et en lingots d'or se serait volatilisé sans effraction des coffres forts à son domicile dans une banlieue résidentielle du Caire. Alexandre Bouchantier revient sur cette affaire.
Le casse du siècle des siècles passionne les Égyptiens qui sont partagés entre l'incrédulité et le sarcasme. Incrédulité devant les sommes en liquide qui dépassent ce dont disposent la plupart des branches bancaires d'Égypte. 3 millions de dollars, 370 000 sterling et, le plus volumineux, 50 millions de livres égyptiennes, soit 3 à 5 milliards de billets de banque. Il ne faut pas non plus oublier les 15 kilos d'or. Les internautes se lâchent sur les réseaux. Un trésor digne de la caverne d'Ali Mama. J'ai raté ma vie en devenant médecin au lieu d'enseignant. Nos respects aux voleurs des voleurs, car beaucoup d'Égyptiens se demandent d'où est venue cette fortune, pourquoi les autorités comme le fisc et la répression du marché noir de devises n'ont pas réagi. Certains évoquent les liens qu'aurait la dame volée avec les puissants, une polémique qui embarrasse les autorités qui cherchent actuellement une échappatoire. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Et puis on prend des nouvelles du Festival de Cannes avant de refermer cette édition ce mardi. Et pour la première fois depuis 15 ans, le réalisateur iranien Jafar Panahi a pu venir en personne sur la croisette pour présenter son long métrage Un simple accident, un thriller en forme de défi à Téhéran en lice pour la Palme d'Or. Enfin, la journée a aussi été marquée par la projection du premier long métrage d'une star hollywoodienne, Scarlett Johansson, pour son film Eleanor the Great. RFI, il est 3h10 à Paris, 1h10 en temps universel.